you know. And I feel blessed, and that's the reason that I stay. When you stop with your mind, bring it back one time. What I've learned is more than you know. So I'm not the first one. Also I've been told.
Californie à nouveau en flammes. Ce réchauffement est sans précédent.
C'est la vie elle-même qui est en train de se mourir sur la planète.
Nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de se tuer.
Quelles sont les alternatives aujourd'hui qui nous permettent de répondre à la crise climatique?
Comment réconcilier l'écologie et le social?
Tout doit changer!
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs de 19h à 20h. C'est aussi en podcast sur le site laclédesondes.fr à la rubrique émission Climat de lutte. Vœux de climat de lutte pour cette nouvelle année, des vœux pour chacun d'entre vous bien sûr, des vœux pour le climat et des vœux pour que nos luttes soient entendues avant la catastrophe bien sûr. Au sommaire de cette émission de rentrée, une note de lecture sur un ouvrage qui parle de la chasse, un décodage d'une intervention de Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, dans le 13-14 de France Inter où il est question de pesticides. Et enfin, le point sur le projet, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, c'est-à-dire le projet de faire une ligne LGV au départ de Bordeaux en direction de Toulouse d'une part, en direction de Dax et l'Espagne d'autre part. Nous écouterons quelques-unes des interventions qui ont eu lieu lors du rassemblement du 13 décembre devant le Conseil régional. Puis, nous écouterons une interview de Christine Séguineau, élue EELV au Conseil régional, que nous avons réalisé par téléphone ce mercredi 5 janvier. Nous inaugurons donc notre émission Climat de lutte format 2022 avec une note de lecture sur un ouvrage passionnant que nous aimerions vous donner envie de lire. Il s'agit de celui de Charles Stepanov, « L'animal et la mort » aux éditions La Découverte. L'auteur est anthropologue à l'École des hautes études de sciences sociales. Ses recherches portent d'habitude sur les pratiques chamaniques des chasseurs de Sibérie. Fichtre. Mais ses recherches ont été un moment suspendues, comme tout le monde. Il s'est retrouvé confiné dans le Perche en mars 2020. Il s'est alors intéressé à la chasse, aux chasses et à la diversité des pratiques dans le coin de France où il se trouvait. Et le résultat est décoiffant. Cela va beaucoup plus loin qu'un débat du type « faut-il ou non interdire la chasse ?». La thèse qu'il développe, à partir d'enquêtes de terrain et d'une solide connaissance des enjeux écologiques actuels, est que notre idée de la modernité a divisé les animaux en deux catégories. Ceux qui sont dignes d'être protégés et aimés, nos chats, nos chiens, nos perroquets, nos cochons d'Inde, et ceux qui servent de matière première à l'industrie, poules, canards, poissons, cochons. Comment comprendre cette étrange partition entre amour protecteur et exploitation intensive? Nous nous érigeons contre la souffrance animale à juste titre. Mais lorsque, durant l'été 2020, le gouvernement Macron décide de réautoriser les néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves, il s'agit d'une violence sans nom contre les insectes et les oiseaux, car ces produits sont responsables de la chute de 75% des effectifs d'oiseaux en Europe, et sans doute plusieurs milliards. Au même moment, cette décision est contrebalancée, entre guillemets, contrebalancée, par l'annonce de l'interdiction de la chasse à la glu, une méthode ancestrale de chasse. On peut discuter du bien fondé de cette technique, bien sûr, mais elle n'est pas responsable du déclin actuel des grives et des merles. Et c'est pourtant cette deuxième décision qui est la plus médiatisée. La frontière n'est pas toujours si limpide entre un rapport dévastateur à la nature, souvent attribué à juste titre à nos sociétés occidentales, et une vie en harmonie avec la nature, souvent attribuée aux peuples autochtones qui pourtant défrichent et chassent eux aussi. Et cette frontière a une histoire que l'auteur nous retrace de façon très documentée. Pendant que l'exploitation productiviste nous nourrit, nos idéaux sont animés par une sensibilité protectrice à tel point que ces deux aspects semblent indissociables de notre modernité. L'exploitation-protection, que l'auteur appelle l'exploitation, est une contradiction majeure et Stepanov enquête de façon minutieuse dans cet ouvrage sur ce qu'elle dit de la violence des êtres humains. L'ouvrage n'a pas encore été acheté par les bibliothèques de Bordeaux, mais demandez à vos bibliothécaires de passer commande si vous ne pouvez pas vous le procurer. L'actualité des pesticides est encore très riche en ce début d'année 2022. Vous l'avez peut-être lu dans la presse locale, les habitants de certaines communes du Sud Gironde, La Brède, Martillac, Saint-Médard-d'Hérens, ont appris la contamination des eaux destinées à la consommation par des métabolites de pesticides. Alors, qu'est-ce que c'est ces métabolites ? Ce sont en fait des molécules qui résultent de la dégradation chimique des molécules de pesticides dans la nature. Parfois, elles sont moins dangereuses, mais parfois, elles sont tout aussi dangereuses que la molécule de départ. Selon l'article qui est paru dans le Républicain Sud-Gironde, l'Agence régionale de santé, ARS, aurait relevé, lors d'un contrôle, des taux de métolachlore ESA allant jusqu'à 0,17 microgrammes par litre d'eau, alors que la limite maximale autorisée, c'est 0,10 microgrammes par litre. Mais toujours selon l'ARS, ces métabolites ne seraient pas dangereux. Pourtant, ce n'est pas l'avis de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui précise que ce métabolite peut avoir un effet mutagène ou génotoxique. Et de plus, cet herbicide qui est très utilisé dans la culture du maïs, dont provient donc le métabolite, est un produit très toxique pour les organismes aquatiques et entraînant des effets néfastes à long terme. Comment, d'une manière générale, peut-on fixer des seuils de pesticides à ne pas dépasser et se contenter d'une circulaire administrative pour les dépasser allègrement malgré tout et livrer de l'eau potable non conforme à la réglementation ? Plus généralement, puisque ces pollutions se multiplient partout en France et que les services de l'eau doivent, eux, multiplier les contorsions en diluant par exemple l'eau d'un captage pollué avec l'eau d'un autre captage moins pollué, pourquoi donc les pouvoirs publics ne prennent-ils pas des mesures pour que ces pollutions s'arrêtent à la source, si j'ose dire ? C'est en substance la question qu'une auditrice de France Inter a posée au ministre de l'Agriculture Julien de Normandie dans l'émission de Bruno Duvic le mardi 4 janvier. On écoute la question de Madeleine et la réponse du ministre.
Voilà, nous constatons actuellement une pollution importante des captages d'eau potable par des pesticides dans ma région, mais dans toute la France. Un pesticide comme le métolachlore, qui est suspecté d'être perturbateur endocrinien dangereux pour la santé. Or, actuellement, l'utilisation des pesticides en France est en augmentation de 20% depuis ces 10 dernières années. Alors, et on vient d'entendre une agricultrice bio qui a de la peine à vivre, et on entend le même son vers chez nous. Alors, quelle action allez-vous mettre en place pour protéger des pesticides, des aires d'alimentation, des captages d'eau potable qui coûtent, parce que c'est des pollutions, coûtent des fortunes.
Julien de Normandie, on va laisser le ministre répondre.
Plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas d'accord avec les chiffres que vous avez donnés, Madeleine. Et quelle est la réalité aujourd'hui ? Depuis 2017, on a par exemple, en France, doublé, je dis bien doublé, la surface de bio. On a, par exemple, en 3 ans, multiplié par 20, je dis bien par 20, le nombre d'exploitations dites de haute valeur environnementale. Les substances, les molécules les plus préoccupantes, on les a réduits de 93% depuis 2017. Ce qu'on appelle les CMR1, celles qui sont un peu moins préoccupantes, mais préoccupantes, on les a réduits de 48%. Pourquoi je dis ça ? D'abord parce que la transition, elle est là. Et il faut le dire parce que nos agriculteurs se sont fortement engagés. Il faut leur exprimer notre gratitude vis-à-vis de ces engagements. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est investir massivement dans nos agricultures pour leur permettre de mettre en place des méthodes et des pratiques culturales qui permettent de sortir d'un certain nombre d'impasses, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est notre rôle, nous, pouvoir public, d'investir aux côtés des agriculteurs. On le fait, par exemple, avec France 2030, où on va investir près de 3 milliards d'euros dans ces ensembles de modernisation de nos agricultures, dans cette troisième révolution agricole, comme j'aime à la définir, celle du vivant et de la connaissance. C'est par l'investissement qu'on pourra aller encore plus vite dans cette transition.
En un mot, vraiment, s'il vous plaît, en un mot, le glyphosate, les industriels demandent d'ores et déjà la prolongation de l'autorisation qui s'achève théoriquement à la fin de l'année. Quelle sera la position de la France, oui ou non, à une prolongation ?
La position de la France a toujours été très claire, c'est de dire, dès lors qu'il y a des alternatives, c'est-à-dire des alternatives crédibles environnementales, et viable économiquement.
De votre point de vue,
alors,
il y en a ou pas,
alors on l'arrête, et quand il n'y a pas d'alternative, on ne l'arrête pas. Ben, ça dépend des usages, ça dépend des utilisations qu'on en fait. Et donc,
pas forcément d'arrêt à la fin de l'année.
De Normandie, minimal de mensonges, de demi-vérité et d'enfumage. Jugez-en. Sur la dernière partie de son intervention, tout le monde se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2017. Il allait interdire le glyphosate. Nous avons retrouvé son tweet de novembre 2017. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans 3 ans. Ah, déjà, on voyait que ça, le délai s'allongeait. Et en 2020, eh bien, l'interdiction n'a jamais été inscrite dans le moindre projet de loi. L'ANSES a publié un rapport le 9 octobre 2020 pour définir quels sont les usages pour lesquels l'institution n'autorisera désormais plus la mise sur le marché des préparations à base de glyphosate. Eh bien, ces usages sont très nombreux. Tranquillisez-vous. Les députés de La République En Marche viennent de décider, d'ailleurs, en cette session parlementaire, qu'ils renonçaient complètement à cette interdiction du glyphosate. Il y a peu de chances pour que la proposition de loi que défend en ce moment même Loïc Prud'homme, député de la France Insoumise, devant la Commission des affaires économiques, soit acceptée. Revenons sur le premier élément de réponse du ministre. En France, dit-il, depuis 2017, on a doublé la surface de bio. Faux. Non. La surface n'a été multipliée que par 1,5. Et le rythme des conversions en bio est en train de ralentir de façon inquiétante, comme l'expliquait une agricultrice auparavant dans l'émission, parce que les aides à la conversion ont diminué. Autre mensonge, on a réduit de 93% les molécules les plus préoccupantes depuis 2017. Le ministre parle là des produits qu'on appelle les CMR1, c'est-à-dire les cancérigènes, métagènes, reprotoxiques de niveau 1, 1A et 1B. Mais son gouvernement n'est absolument pour rien dans cette diminution-là. Il s'agit d'une décision prise par l'Union européenne dans un texte qui date de 2009, le règlement CE 1107-2009. Ce texte prévoyait le non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché pour les produits classés CMR 1A, CMR 1B. Mais comme à chaque fois, par mansuétude pour les marchands de produits qui doivent pouvoir écouler leur stock, on leur donne 10 ans pour que les molécules précédemment autorisées continuent d'être vendues. En 2019, donc, il n'y avait plus de CMR1 autorisé. Enfin, presque, parce que dans ces cas-là, il y a toujours ce qu'on appelle des délais de grâce pour les lobbies les plus insistants. Ce fut le cas, par exemple, pour le mancozeb, un redoutable reprotoxique de niveau 1 qui avait été épandu à Villeneuve-de-Blaye auprès d'une cour d'école en mai 2014, là où les enfants avaient été pris de malaise. Le mancozeb a pu obtenir plusieurs prolongations et la dernière s'arrête au 30 janvier 2021. Mais rien de tout ça n'est à mettre à l'actif du gouvernement actuel qui, heureusement, n'était pas à la manœuvre en 2009 quand le règlement européen a été écrit. Autre type d'enfumage dans la réponse du ministre, on a multiplié par 20 le nombre d'exploitations labellisées HVE. Et alors ? Là, cette fois-ci, le chiffre est peut-être vrai, à peu de choses près. Mais cette réponse n'apporte aucun élément à la question de Madeleine puisque les exploitations en HVE continuent d'utiliser des pesticides. Et c'est un scandale à mettre à l'actif de ce gouvernement d'avoir soutenu comme jamais, notamment dans l'élaboration de la PAC, ce label HVE qui ne garantit rien. Pire, nous avons reçu cette lettre, un communiqué de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde, qui a réalisé une carte des départements français à l'aide des chiffres du ministère de l'Agriculture. Eh bien, les départements qui sont les champions de la consommation de pesticides sont aussi les départements qui ont le plus d'exploitations en HVE. Sur le podium, on trouve la Gironde et la Marne, comme d'habitude, mais les départements du Sud-Est sont pas mal placés, eux non plus. Ce label HVE, malgré toutes les critiques qui fusent de toutes parts, la Cour des comptes, l'Office français de la biodiversité, différents instituts, ne garantit aucune autre obligation environnementale que celle imposée par la loi. On vous met le lien vers un site internet, il s'appelle le BASIC, qui a fait une enquête complète sur tous ces labels. En Gironde, l'appellation des Côtes-de-Bourg vient d'annoncer qu'elle imposerait à tous les viticulteurs ce label HVE, même ceux qui sont en bio. Ce qui ne manque pas de soulever une colère légitime chez ces derniers, car cette obligation laisse entendre que la HVE serait un complément, un plus au bio, alors qu'il n'en est absolument rien. En résumé, alors que tout le monde dans la société prend conscience de la nocivité des pesticides et de l'urgence d'y renoncer, les organisations agricoles, soutenues par le ministre et le gouvernement, sèment la confusion totale en faisant croire aux vertus environnementales d'un pseudo-label qui est une véritable arnaque, comme le titre l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde. Enfin, le plus gros mensonge du ministre est celui par omission. Il oublie en effet de rappeler à son palmarès que son gouvernement a réautorisé les néonicotinoïdes dont nous avons parlé précédemment et à la demande des producteurs de betteraves. Ces produits sont terriblement dangereux puisqu'ils sont responsables de la disparition d'une grande partie de la biomasse d'insectes pollinisateurs et donc de disparition d'environ 70% de la population des oiseaux en Europe. C'est une catastrophe pour la biodiversité et celle-là, oui, on peut la mettre au crédit de M. de Normandie et de son gouvernement.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Agudule, viens m'embrasser et je te donnerai
un joli scooter, un atomixeur, et du dans le pilon, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau,
une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs,
des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux.
Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait, laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et l'on se garde tout. Et Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça.
Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer, et mon poêle à mazout, mon cire d'audace, mon repasse limace, mon tabouret à glace, et mon chasse-fil.
La tourniquette, pour faire la vinaigrette,
le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours frais. Hop, au chauffe savate, au cardon à patate, à les ventes tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui nous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraîne, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois, yeah. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine.
L'autre dossier de cette émission de rentrée, c'est celui du GPSO, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, que nous avons déjà évoqué plusieurs fois l'an dernier. Mais le 13 décembre dernier, 2021, donc, nous étions devant le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine avec des élus, des associations venues de toute la région, concernés par ce grand projet inutile qui consiste à créer à partir de Bordeaux une ligne en Y, une qui part vers Toulouse, l'autre qui part vers l'Espagne. Plusieurs centaines de manifestants étaient là pour accueillir les élus du Conseil régional qui allaient se réunir ce matin-là afin de voter plusieurs délibérations importantes concernant cette LGV. Pour les dissuader de soutenir un tel projet, un document de 150 pages leur a été distribué à l'entrée du Conseil, produit par un cabinet d'études, le cabinet Carrasco, auquel les associations avaient commandé une analyse comparative des options de modernisation des dessertes ferroviaires sur le tronçon Bordeaux-Toulouse. En gros, vaut-il mieux construire une nouvelle ligne à grande vitesse avec 5 à 6 000 hectares d'emprise sur des terres agricoles et sylvicoles, ou réaménager la ligne existante pour gagner en fréquence et en sécurité. De nombreuses prises de parole ont eu lieu devant le Conseil régional ce matin-là, mais nous ne pouvons pas toutes les diffuser, d'abord parce que ce serait trop long, mais aussi parce que les conditions techniques étaient assez mauvaises et que vous allez entendre déjà dans celles qui restent de nombreux parasites sonores. On écoute dans l'ordre quatre intervenants: Philippe Barbedienne, président de la CEPANSO Gironde, Alain Deverte, qui parle au nom de la coordination des associations, Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise, et enfin une militante associative du Lot et Garonne. On les écoute.
Oui, bonjour. Moi, je suis là un peu pour parler au nom des associations et de la coordination Vigilance LGV Gironde. Je représente la CEPANSO Gironde, mais il y a d'autres associations dans cette coordination. Je tenais à remercier tous les élus avec leurs écharpes, que ce soit les élus de Lot-et-Garonne ou les élus de la Gironde, qui ont fait les maires des communes impactées, qui ont fait la route pour venir ici ce matin. Je vous remercie beaucoup de votre engagement et votre présence, parce que le combat ne fait que recommencer, il n'est pas terminé et on aura besoin de vous. Je voulais quand même dire quelque chose concernant l'incongruité de ce projet. C'est le projet de la déraison. C'est le projet de la démesure, mais c'est aussi le projet de la déraison. En ce moment, on a le GIEC qui nous alerte sur les dérèglements du climat qui vont menacer les générations à venir. On a la COP26 dans laquelle la France a parlé de lutter contre la déforestation et de replanter des forêts et d'empêcher de défricher des forêts. On a également l'IPBES qui alerte sur la chute dramatique de la biodiversité. Dans un même temps, nous avons la France qui prend une loi climat et résilience où il est question de favoriser le zéro artificialisation. Mais comme d'habitude, zéro artificialisation des sols, comme d'habitude, la doctrine de l'État, c'est faites ce que je vous dis de faire, mais ne regardez pas ce que je fais. Parce que dans un même temps, pour le climat, on va faire un chantier qui va libérer dans l'atmosphère plus de 3 millions de tonnes de CO2 qu'on ne rattrapera certainement jamais. Et en même temps, on va également défricher près de 5000 hectares de milieux naturels, dont près de 3000 hectares de forêt. Donc on dit une chose et on fait le contraire. Et je compte sur vous pour empêcher de faire ça. Voilà, je vous remercie à tous. Le combat n'est pas fini, il continue.
occupe. Donc je parle au nom de toutes les associations de citoyens, coordination du Lot-et-Garonne, mais on est en lien aussi avec beaucoup d'autres coordinations d'associations sur les autres départements. On n'est pas des Indiens, je crois que c'est très important de le dire et de le répéter. Il y en a marre d'être sur le modèle habituel. Alors, Monsieur Rousset est le responsable du Far West habituel avec le train du progrès. Et puis il y a les impactés qui vont râler et les journalistes qui vont faire des belles photos pour faire pleurer dans les chaumières. Nous ne sommes pas des Indiens. Nous sommes des citoyens responsables. Et c'est au nom de ça que je vous lis les éléments d'aujourd'hui. D'abord, nous sommes pour le train pour tous sur les voies existantes. 95% des usagers utilisent les trains du quotidien sur les voies existantes. Elles sont de plus en plus délabrées et demandent un réaménagement urgent. Les Toulousains demandent à aller à Paris le plus vite possible autour de 3 heures. Ils ont raison. Et ils ont déjà gagné une heure entre Bordeaux et Paris. Mais ils ne trouvent pas cela suffisant. Monsieur Rousset et Madame Delga réclament de créer une ligne à grande vitesse pour 5% des usagers. C'est le train des riches. Avec un train qui ne s'arrêtera pas dans nos gares en centre-ville. Et ils annoncent qu'elle coûtera 10 milliards au minimum. 14 milliards au minimum. Soit, avec l'étude de la société Claraco, spécialiste des réseaux ferroviaires que vous avez là, nous pouvons réaliser tous ces objectifs pour 4 milliards. Donc on était très contents. On est allé dire à M. Rousset, on fait tout pour 4 milliards. Tout ce que vous voulez faire, plus le reste. C'est ça le problème. On a 4 milliards, on peut tout faire, plus le reste. Et il veut dépenser 14. Il y a un problème. La différence de temps entre gagner entre les deux projets, le projet LGV et le projet Claraco, est de 13 minutes. Le texte est là. 13 minutes, 10 milliards. Voilà. Pourquoi dépenser 14 milliards alors que pour 4 milliards, on a les mêmes résultats? Et même mieux. Les élus de la région sont donc invités aujourd'hui à jeter la différence, soit 10 milliards de nos impôts à la rue. C'est pour cette raison-là que vous avez sur les affiches « Oui au train sur les voies existantes »,« Non à l'impôt LGV »,« Halte au gaspillage de l'argent public »,« 10 milliards jetés pour rien ». Et c'est pour cette raison-là que nous allons vous faire l'immense plaisir de jeter maintenant 10 milliards, puisqu'on les a, on les jette. Envoyez 10 milliards, s'il vous plaît, et jetez-les par les fenêtres. Et faites des photos. Allez-y, faites des photos.
Bonjour à toutes et à tous. Loïc Prud'homme, élu François Soumise, député de la Gironde. On voit que l'argent, il y en a. Il y a un pognon de dingue, comme dirait notre président. Juste remercier les élus qui sont mobilisés, les associations nombreuses qui ont pu démontrer par leur travail, notamment que tout ce projet de LGV est basé sur un mensonge, celui de la saturation des lignes. Toutes les contre-études qui ont été menées par les associations, les collectifs, prouvent que c'est basé sur un mensonge. Les études même de la SNCF prouvent que c'est basé sur un mensonge. Et je peux vous dire que depuis 4 ans et demi, je sais reconnaître un mensonge, parce qu'au gouvernement, c'est vraiment des experts. Juste, cette question-là, je voulais préciser aussi que, puisque de l'argent, il semblerait qu'il y en ait. Néanmoins, nous avons pu débusquer à l'Assemblée nationale ce que monsieur le maire expliquait tout à l'heure. La question de cet impôt LGV passé sournoisement un soir dans le projet de budget, 28 millions d'euros par an, ponctionnés sur tous les usagers, écoutez-moi bien, qui seraient dans un territoire situé à moins d'une heure d'une future gare LGV. Autant vous dire, mesdames et messieurs les élus, chers amis citoyens, citoyennes, c'est pour nous tous.
28 millions qu'on va nous ponctionner dans les poches par an pour une durée finalement illimitée, parce que comme ça a été dit, non seulement ce projet ne répond à aucun impératif écologique, mais en plus il va coûter sans doute 20-30% plus cher. Et donc on en a pour 10, 15, 20, 30 ans à payer pour des décisions qui sont basées sur des mensonges qui ne servent ni l'intérêt général, ni l'intérêt écologique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut absolument refuser ce projet. Toutes les études, les alternatives, comme ça a été dit, présentent le progrès nécessaire pour l'intérêt général. Et il faut se demander pourquoi ces gens-là veulent voter un projet qui est pour des intérêts particuliers. Posons-nous les bonnes questions. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est des combattants historiques depuis 2004 contre la LGV. Je montre ça pour les Lot-et-Garonnais et pour les Agenais. On a eu le plaisir d'avoir ça dans le journal. Première chose qu'on dit de nous, je vais faire très vite, on est des procrastinés, c'est très dur à dire.
Des procrastinateurs.
Parce que ça veut dire qu'on est enquisté sur un refus. Mais je pense que moi, je suis très surprise que le si jeune monsieur Rousset nous présente comme une modernité un projet de 2005. Il n'y a pas de modernité à présenter un projet de 2005 comme étant de l'avenir. Parce que 2005, vous savez, beaucoup de choses ont bougé.
Pardon.
Donc, je crois que les procrastinés, ce n'est pas nous. Et puis, 2005, ça amène autre chose, que nous a expliqué monsieur Claraco. C'est que les motrices, les bécanes, comme ils disent les cheminots, les machines, elles sont aussi de 2003 et de 2005. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui veut s'acheter une belle voiture, Mercedes, Renault, Peugeot, tout ce que vous voulez, bien carénée, avec des chaises bien designées, et un moteur 2003? Lève le doigt. Ah ben mince, personne n'en veut. Bon, j'ai autre chose à dire aussi. Ça me rappelle aussi une chose, c'est que dans le prix réactualisé, on était en 2017 à 30 millions 9 le kilomètre. On est aujourd'hui à 40 millions le kilomètre. Et dans ce prix réactualisé, j'ai une question, Raymond, pour qui sait plein plus de choses que moi quand même. Est-ce que le prix des motrices et le prix des matériels a été compté? Je ne crois pas. Je crois que donc, les 14 milliards... En 2030, si on ne veut pas avoir des matériels complètement obsolètes, eh bien on ne sera pas à 14 milliards quand on aura compté le coût de ce que je vous explique. Je vais faire très vite, j'ai deux ou trois petites choses encore à dire et j'arrête. Voilà. Ça ne vous dit rien, 40 millions le kilomètre. Alors je vais vous dire un petit calcul qu'on a fait vraiment depuis longtemps, vous savez, avec des chercheurs. C'est une proportion. Alors c'est une proportion, c'est ça qui est intéressant, puisque la LGV augmente, mais tous les autres travaux augmentent. Alors je vais vous dire, ça veut dire qu'un kilomètre de LGV, de GPSO, c'est 30 crèches de 50 places. Un kilomètre de GPSO, c'est 30 crèches de 50 places. Ou alors un lycée de 850 élèves, avec norme HQE, 49 salles, des ordinateurs, etc. 2 kilomètres de GPSO, c'est 3 maisons de retraite de 85 lits. 3 maisons de retraite de 85 lits. Ensuite, 20 km de GPSO, c'est un hôpital de 1200 lits, avec un plateau technique, un truc héliporté, etc. Voilà ce que ça veut dire, 40 millions le kilomètre. Ça veut dire que ça nous prend ce dont on a tellement besoin. Et moi j'ai discuté, il y a beaucoup de maires parmi nous. Et bien ces maires, ils m'ont dit que voilà, quand des jeunes vont s'installer pour le télétravail ou autre, avec la Covid, on va en reparler deux secondes, ils demandent s'il y a des crèches, ils demandent s'il y a une école, ils demandent s'il y a un docteur, ils demandent s'il y a une maison de retraite pour leurs parents, ils demandent s'il y a des TER, ils ne parlent jamais de ces lignes à grande vitesse. Ils n'en parlent jamais. C'est pas ça, jamais. Voilà. Et ensuite, je vais finir là-dessus, le financement de la société de projet. C'est une usine à gaz. Et les élus qui sont là, les élus régionaux, vous aurez de la page 13 à la page 17 l'explication précise dans le rapport de mobilité, le dernier, de la loi mobilité. Vous aurez, on tentera de vous expliquer ce qu'est la société de projet. C'est une usine à gaz extraordinaire, mais qui en fait ne crée pas d'argent. C'est une manière de regrouper des financements Je vais terminer en disant que ce qui est scandaleux dans cet article, c'est qu'il écrit qu'aujourd'hui le vote est acquis. Là, le vote est acquis. Je demande à tous les élus saisir soit des cabinets d'expertise, soit des chambres régionales des comptes, parce qu'ils disent qu'il y aura des retombées économiques extraordinaires. Tous les rapports de la Cour des comptes de 2011 et de 2014 montrent que toutes les LGV sont déficitaires sauf une. Toutes les études économiques, même le rapport Mariton qui était un RPR ou un truc comme ça à l'époque, même le Conseil économique, les deux rapports de la Cour des comptes, j'ai pris exprès des organismes d'État, donc ce n'est pas des gens pour ou contre, tous les organismes d'État ont condamné la LGV, sa gabadjie, son saccage de nature et son impossibilité de récupérer l'argent parce que tout est faussé. La fréquentation est faussée, les retombées sont faussées.
Bonjour Christine Séguineau, vous êtes élue ELV au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont vos prérogatives au Conseil régional ?
Oui, alors bonjour à toutes et tous. Donc moi ça va être mon deuxième mandat au niveau de la région. Précédemment j'étais présidente de la commission transport. Et donc là, je fais toujours partie de la commission transport ainsi que ce qu'on appelle le groupe interassemblée transport infrastructure. Et j'ai aussi je siège également dans des instances paritaires au niveau de la région. Voilà.
Bien, alors bien sûr, on vous a invité ce soir sur Climat de lutte pour parler de ce projet, ce GPSO, ce grand projet du Sud-Ouest d'une LGV Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne, et dont il a été fortement question lors du Conseil régional du 13 décembre, devant lequel manifestaient de bon nombre de personnes, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant de ce projet ? Les annonces ont fusé d'un peu partout.
Oui, mais comme vous rappelez, hein, donc le 13 décembre à la plénière, juste en amont, donc il y a eu cette manifestation à laquelle j'ai participé et pris la parole pour rappeler un petit peu les actions que notre groupe des écologistes solidaires et citoyens de la région Nouvelle-Aquitaine avait menées sur ce projet. Donc là, on nous a simplement demandé de voter un plan de financement assez bancal, mais j'y reviendrai tout à l'heure au niveau de ce projet de GPSO. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à acter le fait qu'on va construire une nouvelle ligne de ligne à grande vitesse pour faire Bordeaux-Toulouse et également de faire un petit morceau vers le Pays Basque, Bordeaux-Dax. Et voilà où on en est. Donc, il y a eu un plan de financement complètement incomplet. On a donc également, dans cette délibération, il y avait le fait d'acter la création de ces deux LGV. Il y avait également de demander au gouvernement de mettre donc en place au niveau de... Il va y avoir une ordonnance normalement au mois de mars, comme c'était prévu dans la loi LOM. Le fait de créer une société de financement pour la LGV. Voilà. Et ensuite, divers points. Donc, alors, je ne sais pas si on va le détailler maintenant ou pas. Il y avait toute une partie qui informait sur les impacts, notamment sur la biodiversité, en nous rencrachant que, de toute façon, toutes les saccages au niveau de la biodiversité seraient compensés.
Le fameux mot compensé.
Voilà, compensé.
Alors peut-être avant de rentrer dans ces détails-là, oui, cette question du financement pose problème. Vous avez, lors de cette séance, évoqué un numéro d'illusionniste parce que pour ce qui est du tronçon central entre le sud de Saint-Médard-des-Rangs et le nord de Toulouse, c'est l'État qui finance. Mais il y a maintenant à solliciter à la fois les deux régions, puis toutes les collectivités départementales, la collectivité d'Agen, de Dax, etc., pour participer à ce financement. Et c'est là que ça coince un peu.
Oui, ça coince beaucoup, hein, parce que là, moi, je suis revenue dessus pour demander des explications, parce qu'on a quand même demandé à des élus régionaux de voter un financement qui n'était pas du tout bouclé, complètement bancal. Puis, effectivement, il y avait de nombreuses collectivités qui n'avaient pas encore voté sur la prise ou pas de participation financière à ce projet GPSO. Et d'autre part, la même chose au niveau des financements de l'Europe, parce qu'à ce jour, il faut bien acter qu'il n'y a aucun financement écrit noir sur blanc. Donc là, dans le plan financement, on nous annonce un chiffre de 20%. L'État, lui, s'était engagé sur la partie, alors non pas sud de Bordeaux, hein, c'est carrément Bordeaux-Toulouse, à hauteur d'un peu plus de 4 milliards, mais rien du tout sur la liaison Bordeaux-Dax, hein, donc juste un engagement, on soutiendra le projet, mais dans la délibération, qu'est-ce qu'on demande aux collectivités ? C'est de financer cette nouvelle branche, quoi. Et l'État, ses 40% de participation, elle ne repose pas du tout sur les deux lignes, elle n'est simplement que sur la Bordeaux-Toulouse.
Voilà.
Après, un autre point qui est très ennuyeux, c'est que sur la loi de finances pour 2022, donc est apparue la taxe...
La taxe LGV.
Voilà, une taxe LGV qui va concerner quasiment tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il faut être à moins d'une heure d'une gare LGV. Alors là, c'est pareil, un grand flou, parce que les règles ne sont pas encore écrites. On nous dit que ça représenterait entre 3 et 5 euros par logement pour un logement moyen de 80 mètres carrés. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a de nombreux néo-aquitains qui vont être très contents. Je pense notamment à tous ceux qui sont vers Limoges, vers Saintes, qui malheureusement n'ont pas de transport collectif à proximité, mais qui devront aussi financer cette LGV. Et après, il y a un gros plan de financement qui lui repose sur ce qu'on appelle la taxe d'équipement des bureaux et qui, elle, bizarrement, on a quand même les présidentielles qui arrivent, n'est pas du tout inscrite dans le projet de loi de finances de 2022.
D'accord.
Donc là, c'est quand même un gros souci parce que cette taxe-là représente une somme assez conséquente, à peu près un milliard d'euros sur le financement de la LGV. Donc voilà, et ça paraît assez peu probable que cette taxe soit mise en place avant les présidentielles. Et puis à l'heure où on est encore dans la pandémie, on le voit bien encore, et que les entreprises... jusqu'à présent, on essaye quand même de leur mettre une bouffée d'oxygène, donc leur annoncer un impôt supplémentaire. Je ne pense pas que ça fasse...
C'est pas très sexy.
Voilà. Donc, voilà, ce plan de financement est quand même très, très, très bancal. On a également aussi, alors qu'on avait certaines collectivités qui avaient délibéré, hein, comme je pense notamment à la métropole de Bordeaux, on a simplement retrouvé dans la délibération le fait que le département de la Gironde avait ne souhaitait pas mettre de l'argent dans la ligne LGV, mais dans le RER. Et bizarrement, cette somme du département se retrouve dans le plan de financement, la région se faisant, prend pour appui cet argent-là et dit que cet argent-là, elle le retirera, elle, de sa participation sur les TER au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc un petit tour de passe-passe.
Oui, c'est vraiment un tour de passe-passe. Quoi. Parce que le département, voilà, officiellement, a dit, le département de Gironde, qu'il était contre la LGV et qu'il ne subventionnerait pas. Jean-Luc Glaize a été clair là-dessus pendant...
Ah oui, tout à fait.
Bon, mais finalement, il donne, au nom du RER, c'est ça, métropolitain,
c'est ça, voilà.
De l'argent à la région qui reverse instantanément cet argent dans... Voilà, donc c'est des contorsions qui sont quand même vraiment peu démocratiques, moi je trouve. C'est,
c'est clair, hein, parce que là, il se substitue à ces 170 millions d'euros que le département voulait donner au TER. Mais c'est écrit noir sur blanc, quoi. Et par contre, la somme qui a été votée de Bordeaux Métropole de 354 millions d'euros, alors elle n'apparaît pas. Il y a un chiffre qui n'est pas du tout celui-là, d'ailleurs, qui est beaucoup plus important. Donc c'est quand même dingue. C'est quand même dingue.
Est-ce qu'il va en être de même avec les autres départements qui ont refusé de mettre la main ? Je pense au Lot-et-Garonne.
Alors, la question a été posée. Le président Rousset a dit que ça serait l'État qui prendrait en charge. Je ne sais pas sur quel texte, quel engagement on a, mais que c'est donc l'État qui prendrait en charge les collectivités qui n'y paieraient pas. Je n'y crois pas du tout une seconde, mais voilà.
Oui, c'est-à-dire que donc à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle du côté des financeurs, des collectivités qui traînent des pieds, Rousset fait un numéro de claquette, voilà, et puis déclare ce qu'il veut sur les compensations possibles, voilà.
Tout à fait, tout à fait. Alors que au bout du bout, ça sera forcément, ça va être la région qui va devoir financer ces manques qu'il y aura dans le projet.
Oui, en tous les cas, ce sera le contribuable, on pourra dire, de toute façon. Oui.
Voilà, de toute façon, bien sûr, c'est le contribuable. Et puis après, c'est quand même... on a dénoncé également ce manque de clarté dans le dossier, ce manque d'information... un peu ce déni de démocratie, quoi, parce que on souhaite faire revenir les gens vers la politique, mais bon, quand on voit des méthodes ainsi, ça fait pas rêver, quoi.
Exactement, oui. Alors, autour de... Il y a donc une confusion qui est entretenue autour de ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, puisque déjà en juillet dernier, au Conseil de métropole, une délibération a été présentée... comme étant une étude de la compatibilité du RER métropolitain avec ses aménagements ferroviaires, mais en fait, c'était une étude pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, parce que ce n'est pas du tout la même configuration si on fait seulement un RER métropolitain ou si on rajoute une ligne grande vitesse particulière avec toute son emprise à partir de Bordeaux.
Alors là, ça va être un peu plus technique, hein, parce que... Il faut rappeler, nous, au précédent mandat, nous étions dans la majorité, dans l'ancienne majorité. Nous avons, pendant 5 ans, veillé à ce qu'il n'y ait pas de projet de nouvelle LGV. Mais par contre, nous avons toujours soutenu ce qu'on appelle les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, les AFSB. Et on a la même chose au niveau de Toulouse. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pour vraiment être clair, on a voté pas mal de choses sur notamment tout ce qui était acquisition foncière. Et le projet de RER métropolitain, alors je pense qu'il faudrait peut-être aussi trouver un autre nom parce que ça concerne plutôt la Gironde au niveau de ce RER, c'est quoi ? C'est de pouvoir mettre un cadencement beaucoup plus important pour toutes les villes de la Gironde qui tournent autour de la métropole bordelaise. Et pour cela, techniquement, parce qu'il faut rappeler que les voies ferrées sont quand même des choses héritées de notre passé. Et pourquoi on a aussi cette situation de problématique sur les transports du quotidien avec des voies qui tombent parfois un peu en ruine, c'est parce que c'est un réseau qui est très très vieux. Et autant au nord de Bordeaux, avec les travaux de la LGV Tour Bordeaux, on a eu la modernisation de ces voies, ce qui permet d'avoir des TER, des TGV avec un cadencement qui soit intéressant. Autant au sud de Bordeaux, il manque une voie. Donc ce qui avait été prévu, c'était de pouvoir créer une troisième voie de manière à pouvoir augmenter le cadencement et de permettre à des trains de se croiser ou s'il y a une panne, de pouvoir utiliser une autre voie. Donc là, si vous voulez, dans le projet GPSO initial, on avait vraiment un lot AFSB AFNT et on avait donc la LGV Bordeaux-Toulouse et la LGV Bordeaux-Dax.
AFNT, je précise, aménagement ferroviaire du nord de Toulouse, AFSB sud de Bordeaux.
Exactement. Voilà. Et donc là, en octobre, quand est arrivée la première délibération communication sur... suite aux annonces de Castex et des résultats des régionales, donc est revenue cette LGV. Et là, on nous a remis dans la même sauce, on va dire, la LGV. Alors que c'est pareil, c'est une fake news qui a été... qui continue. Il ne faut... Enfin, la LGV, il n'y a aucun rapport avec les AFSB. c'est pas du tout lié. Si on a une nouvelle voie, elle va prendre cette troisième voie qui serait créée, mais après c'est un tracé qui n'est pas du tout sur la ligne actuelle, donc c'est pas du tout lié. Et là c'est pareil, on nous a un peu fait une entourloupe en nous mettant tout dans le même sac, et de manière à, alors que des financements avaient été votés en 2020 entre la métropole, la région, SNCF pour réaliser ces, et puis l'État, puisque ça faisait partie du contrat plan État-région. Donc là on avait quelque chose qui était financé, et là on nous remet tout dans le package.
Allez, il y a bien un petit point commun, parce que les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux bénéficient de crédits européens au titre du réseau transeuropéen, là, c'est bien que ça en fait partie de ce projet.
Alors, c'est-à-dire que pour l'instant, hein, les crédits européens ne sont pas du tout écrits noir sur blanc. Les AFSB n'étaient pas dans le plan de financement. Il n'y avait pas un financement de l'Europe. Hein. Le financement de l'Europe, il est supposé sur la liaison, on va dire, entre Bordeaux et l'axe méditerranéen, et entre Bordeaux et Hendaye. Sauf que, je rappelle, à ce jour, il n'y a rien du tout qui acte la création d'une voie entre Dax et le Pays Basque. Ça, d'accord. C'est pareil. Ça n'est toujours pas là. Quoi. Là, il n'y a pas eu de déclaration d'utilité publique. Hein. C'est la GPSO, c'est un vieux projet qui a presque 20 ans.
Oui.
Dans les derniers débats, etc., sur les enquêtes publiques, ça a été simplement acté le Bordeaux-Toulouse, le Bordeaux-Dax. Point.
Alors, donc au jour d'aujourd'hui, donc on a vu Sud-Ouest titrer « Toutes les collectivités ont voté », en oubliant de dire que certaines avaient voté contre d'ailleurs et certaines avaient voté pour, donc à propos des financements de la LGV. Mais donc, quelles sont les échéances là, maintenant, et éventuellement les rendez-vous donnés aux citoyens qui continuent de se mobiliser contre ce projet ?
Alors, les rendez-vous, là, c'est le projet d'ordonnance que doit prendre le gouvernement, et la date limite, c'est fin mars. Donc, à voir si cette ordonnance va être créée pour pouvoir créer la société publique de financement. Est arrivée également quasiment sur table le jour de la pénière, donc la création d'une association de préfiguration de cet établissement public local avec la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. Et là encore, il n'y a pas de représentants des collectivités qui pourraient être financeurs éventuellement. Et donc, je vous dis, il manque également ce nouvel impôt pour les entreprises au niveau des taxes de bureau. Et donc là, les échéances, la mobilisation, elle se poursuit. On a un site qui permet de recueillir le fait de pouvoir voter non. Et puis, c'est un dossier qui, je pense, va revenir d'ici la fin de l'année pour voir quels sont comment on va pouvoir passer à la vitesse de concrétisation. Puisque là, pour l'instant, on est sur des choses qui sont quand même, on l'a vu, assez... hypothétique.
Hypothétique, donc, oui. Mais donc il y a un nombre d'élus mobilisés absolument impressionnant quand même, des petits élus comme on dit, mais des maires, etc., qui comptent et qui savent très bien que dans le meilleur des cas, ils vont voir le TGV passer et c'est tout. Mais il y a les associations de leur côté ont déposé bon nombre de recours, mais je crois qu'ils sont tous maintenant déboutés en Conseil d'État. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres démarches qui peuvent être entreprises pour empêcher ce projet ?
Là, après, je vous dis, il y a le côté, on va dire, pratico-pratique. Hein. Est-ce que on va être capable de trouver ces milliards d'euros ? Est-ce qu'on va être capable de pouvoir détruire des hectares de biodiversité sans résistance, est-ce que ça va pas engendrer, je ne sais pas moi, une ZAD comme ça, je ne sais pas, là, ce jour, je ne sais pas. Et voilà, si jamais on a aussi l'échéance des présidentielles, donc on l'avait bien vu, hein, au début de son mandat, Macron, il avait arrêté tous les projets de LGV. Et bizarrement, c'est revenu juste avant les régionales.
Oui.
Donc, voilà, je pense que la mobilisation, elle est toujours là. Maintenant, il va falloir qu'on... Voilà, déjà, la première échéance, ça va être le mois de mars. Après, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe. Et je ne vois pas comment un projet d'une telle folie... parce que ça ne répond pas du tout aux besoins...
Oui, ça, on l'a longuement développé, oui. Ce n'est pas les besoins des habitants de la région, non ?
Ben, c'est ça. Et puis, on a aussi à venir le contrat plan État-région, hein, qui n'est toujours pas fait. Donc ça serait plutôt sur fin 2022. Donc là, c'est pareil, il y a des financements, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous, pas au rendez-vous ? Voilà, donc là, je vous dirais que... En ce début d'année, la plénière, c'était il n'y a pas très très longtemps, il y a 3 semaines environ.
Oui.
Voilà, donc nous, on reste mobilisés, on regarde tout ce qui se passe, on est à l'écoute et en lien avec les associations, et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, quoi.
Bien, et bien, merci beaucoup Christine. Je pense que les auditeurs de la Clé des Ondes entendront l'appel et resteront mobilisés sur cette question. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Mais merci à vous et bonne soirée.
À bientôt. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Une information sur la chanson que vous avez entendue, c'est la Complainte du Progrès, écrite par Boris Vian et Alain Goraguet, et chantée par le groupe Chanson Plus Bifluoré. On vous dit à la semaine prochaine, jeudi prochain, 19h-20h, ou bien en podcast sur le site laclédesondes.fr, ou en rediffusion vendredi à 13h. À bientôt.